autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour nous poser des questions métaphysiques aujourd'hui sur l'origine déterminée ou aléatoire de l'univers. Dieu joue-t-il au dé ? Question évidemment sans réponse, mais que les avancées de la cosmologie, les théories de la relativité générale et du Big Bang, les paradoxes de la physique quantique ont remis en jeu sur le tapis vert de la science. Comment les plus éminents physiciens se sont-ils positionnés ? Pourquoi et comment certains ont-ils osé parler de Dieu sur les traces d'Einstein et des plus grands esprits libres de notre temps autour de la question « Pourquoi Dieu joue-t-il au dé ?» Et Dieu joue-t-il au dé ? Bonne question, hein ? Bienvenue. Bonjour Jacques Arnaud.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes historien des sciences et théologien, chargé de mission pour les questions éthiques au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur notre fascination pour l'espace et sur Darwin. Vous vous attaquez aujourd'hui à une montagne, j'ai envie de dire, en publiant chez Albin Michel, Sous le voile du cosmos, quand les scientifiques parlent de Dieu. Alors pourquoi vous, qui nous avez aussi mis en garde contre les créationnistes, avez eu envie de nous faire partager ces questionnements métaphysiques autour de Dieu, partagé justement par les plus grands esprits scientifiques de notre temps?
Eh bien, il m'est arrivé de découvrir, il y a déjà maintenant plusieurs mois, un événement comme il s'est passé un aujourd'hui. En ouvrant le journal, vous l'avez peut-être fait aujourd'hui, mais vous avez vu que on a une meilleure vision de la main de Dieu, entre guillemets. En fait, un amas d'étoiles qui a une forme un peu étrange et dont les vues de la Terre, on pourrait croire des doigts ou peut-être une main. Et c'est vrai que on a comme ça plusieurs exemples, et j'en cite dans mon ouvrage, eh bien, d'expressions. Au départ, d'expression où on nous parle le visage de Dieu, on l'aurait découvert là au commencement de notre univers. Parfois donc la main de Dieu, le
la
doigt
particule de Dieu.
La particule de Dieu. Alors là on est dans l'infiniment petit ou le doigt de Dieu, etc. Et cette redondance finalement assez fréquente, voire même permanente, d'un recours à l'anatomie de Dieu, si je puis dire, par les astronomes, par les gens qui s'intéressent au cosmos, a fini par m'interroger. Je me dis, mais est-ce que c'est simplement une métaphore ? Parce que c'est sympa, la main de Dieu, le doigt de Dieu, l'œil de Dieu, je ne sais trop quoi. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière ?
Est-ce que s'intéresser au cosmos, travailler sur le cosmos,
ben oui,
inviterait à
cette
réflexion-là ?
Voilà. Est-ce qu'il se poserait quand même la question ? J'entends nos cosmologistes actuels, parce que je connais des plus anciens. Et donc j'ai pris le dossier en main, si je puis dire, et je me suis offert un petit voyage au pays des astronomes, même si vous venez de le rappeler. C'est un domaine dans lequel j'ai vraiment peu mis les pieds. J'ai osé le faire parce que j'avais...
Vous en fréquentez quand même pas mal.
J'en fréquente, mais je connais mal. C'est un domaine qui m'est vraiment un peu étranger au niveau de la matière. Et en entreprenant ce voyage, ça m'a vraiment, non pas complètement étonné, mais j'étais, parce que j'en connaissais quelques-uns, mais j'étais étonné par le nombre finalement de scientifiques de haut niveau, qui ont travaillé au XXe siècle, au XXIe siècle, et qui non seulement utilisent des métaphores à propos de Dieu, la main de Dieu, le visage de Dieu, mais de fait se posent la question de Dieu, et osent poser la question de Dieu. Et pour moi qui ai l'habitude dans notre culture française de ne pas trop poser cette question, voire même de refuser qu'un scientifique puisse poser cette question, ça a été d'étonnement en étonnement.
Autour de la question « Dieu joue-t-il au dé ?» On n'a pas fini, hein, au rayon étonnement. On commence par lancer les nôtres de dés sonores, évidemment avec le mix cosmique de Charles Pélabon.
Au début, il y avait les ténèbres. Et soudain, bang ! Chaque jour, de nouvelles découvertes dévoilent les mystères de l'endroit que nous appelons l'univers.
Il faut bien voir qu'on parle d'un univers observable, c'est-à-dire ce à quoi nous avons accès. A priori, l'univers est beaucoup plus vaste que ça, peut-être même infini.
Et Dieu dans tout cela ?
Ah, Dieu !
Où est-ce qu'il est ? Et puis qu'est-ce qu'on cherche d'abord, hein ?
C'est une question que je me pose régulièrement.
C'est très difficile de comprendre de quoi il s'agit.
Père Céleste, permets-nous d'y voir clair et remplis-nous de ton Saint-Esprit.
Alléluia !
Je pense que la question de Dieu et la question de la science ne sont pas spécialement reliées.
Donc l'attitude du scientifique, c'est d'oublier qu'il croit quelque chose.
Einstein, en 1936, a dit « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. »
Donc ça veut dire que quelqu'un a craqué l'allumette du Big Bang.
Exactement.
Et ce quelqu'un, c'est Dieu.
On est du chien. Oui, certain.
Aucune théorie scientifique n'est jamais prouvée, aucune ne le sera.
La physique et les mathématiques ne peuvent jamais expliquer d'où viennent les lois et la logique.
Je ne suis pas sûr que Dieu soit la bonne réponse à ces questions.
Personnellement, je ne sais pas. Je ne me sens pas concerné par cette question. Chacun pense que son Dieu est le seul, et ça, bon...
Stephen Hawking dit que l'univers a pu surgir du néant.
Je ne pense pas qu'il arrivera un temps où nous comprendrons tout. Je crois qu'il y aura toujours une part d'inconnu, une frontière.
Est-ce que Dieu joue au dé ?
Beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses.
Pas beaucoup de réponses. Est-ce que vous voulez réagir, Jacques Arnoux, à ce que vous venez d'entendre?
D'abord, vous remercier, parce que j'ai trouvé que ce patchwork, voilà, eh bien, qu'il soit remercié, vraiment, parce que c'est, j'ai même reconnu quelques voix en passant, et que, où il y avait aussi quelques traductions. Et c'est vrai que, j'ai à peu près ce sentiment-là, après ce voyage, comme je disais, au pays des cosmologistes, d'une très grande variété. Mais ce qui m'a frappé, et qui était même présent justement dans ce patchwork, si je peux utiliser ce mot-là, c'est que de fait, ils se posent la question.
De fait, ils se posent la question.
Même s'ils disent, il n'y a pas de Dieu, ou cette question n'appartient pas à mon domaine, mais voyez, même en disant, cette question n'appartient pas à mon domaine, il faut quand même se positionner par rapport à cette question.
Et depuis quand est-ce qu'on peut, j'ai envie de dire, se repositionner par rapport à cette question? Alors, on va y revenir, c'est Einstein, je crois, un des plus grands esprits libres qui l'a reposé, cette question. Mais il y a eu un moment où elle était devenue complètement taboue. Et pour cause, parce que c'est l'Église elle-même qui a brûlé sur le bûcher, Giordano Bruno, qui lui-même avait osé remettre en question le dogme. Donc ça avait mal commencé, cette histoire.
Alors, ce qui a mal commencé, c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle les temps modernes, mais qui ont commencé précisément au début du XVIIe siècle, et Giordano Bruno, que vous venez d'évoquer, a été brûlé en février 1600. Donc il a... Bruno est vraiment à la jonction entre l'ancien monde, si je puis dire, et le monde moderne, ne serait-ce qu'au niveau scientifique. Alors, il a été condamné pour des tas de raisons. C'est un personnage complexe, un vrai personnage de fiction, enfin bon, absolument effarant. Mais si j'ai, si d'ailleurs permis d'évoquer ce personnage-là au début de mon ouvrage, c'est parce que je crois qu'il, dans une scène un peu terrible, qui est à la fin de sa vie, au moment où il est devant ses juges et qu'il entend la condamnation à mort, et il sera brûlé quelques jours plus tard, on raconte qu'il a un dernier moment, qu'il a vraiment regardé ses juges en disant « Mais regardez, c'est vous qui avez peur. » Et je me suis demandé, mais de quoi pouvaient-ils, eux, ces juges, l'Inquisition, cette puissance du magistère, avoir peur? Et j'ai imaginé, bien sûr c'est purement imaginaire, que de fait ils se rendaient bien compte qu'ils étaient en train de vivre un changement. Et que toute
ils
la puissance, voilà, que toute l'autorité qui jusqu'alors reposait sur... un dogme religieux. Bon, on pourra parler de différence entre dogme et dogmatisme plus tard, mais que cette autorité-là allait petit à petit s'effriter parce qu'elle était en train de naître, comme héritier de Bruno, mais en même temps en allant beaucoup plus loin que Bruno, toute une génération, toute une véritable société, la société des savants, qui allait petit à petit prendre la place, leur place à eux et leur autorité.
C'est-à-dire que le dogmatisme, en quelque sorte, se serait un peu déplacé depuis ce moment-là, et ce seraient les scientifiques qui seraient les nouveaux tenants du dogme.
En tout cas, de la parole ou ce vers quoi nous, gens de la rue, gens de quotidien, nous tournons pour savoir de quoi est fait le monde, quelle conception du monde nous allons choisir et comment nous allons nous orienter dans cette réalité à la fois spatiale et temporelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le rappelle aussi rapidement parce que c'est pas directement l'objet de mon ouvrage, ça l'introduit, mais qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe dans notre monde, quels que soient les désastres technologiques ou scientifiques, eh bien aujourd'hui encore, la confiance, ceux qui reçoivent plus de confiance aujourd'hui dans notre société sont les scientifiques. Et ça depuis que je m'intéresse à ces sujets-là, que je récolte les sondages année après année, ils gardent toujours la première place en termes de confiance. Donc l'autorité scientifique est largement en avant de l'autorité religieuse. Je ne parle pas de l'autorité politique qui, la pauvre, est vraiment très très bas.
Et voilà pourquoi vous dites que ces scientifiques-là, ils peuvent aussi reprendre à leur compte toutes ces grandes questions. Alors, et qu'ils doivent, au fond, oser se reposer toutes les grandes questions.
Ah non, pas nécessairement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut déjà pour comprendre, pour essayer d'appréhender cette réalité que j'essaie de décrire après, déjà se rendre compte de la place que les scientifiques occupent aujourd'hui au sein de notre société. Et que cette place, d'une certaine manière, effectivement, a été celle des clercs de l'ancien temps. Ils sont les nouveaux clercs, je le dis en passant. Et c'est d'autant plus vrai que ce qui a changé, alors là, on rentre vraiment dans le propos scientifique, c'est que jusqu'au 19e siècle, entre donc le 17e et le 19e siècle, pour prendre, puisque je viens d'évoquer Giordano Bruno, eh bien, jusqu'à la fin du 19e siècle, la méthode scientifique avait exigé, et exige toujours d'ailleurs, qu'on privilégie une approche réductionniste de la réalité. C'est-à-dire qu'on prend la réalité par petits morceaux, et un morceau à peu près bien délimité, qu'on essaie de comprendre le plus possible. Parce que on a peur, ou on ne peut pas embrasser la réalité dans sa totalité. Donc, tout ce qu'on appelait auparavant le cosmos, hein, ce mot hérité des Grecs, cette belle totalité ordonnée, comme ils disaient, ces Grecs, eh bien, le cosmos n'était plus un objet d'étude
en entier,
à partir du XVIIe siècle et jusqu'à la fin du XIXe, quasiment. Évidemment, il y a toujours des exceptions où il faut mettre des petites modifications, mais globalement, c'est ça. Donc, le scientifique était d'abord celui qui s'intéressait à des éléments et n'avait plus comme élément d'étude le grand tout. Et ce faisant, il pouvait laisser le cosmos à d'autres, aux philosophes ou aux théologiens, qui récupéraient ça d'un point de vue religieux.
Et aujourd'hui, depuis le tout début du XXe siècle, le physicien, astrophysicien étudie le cosmos
voilà,
à nouveau, le grand tout à nouveau.
C'est ça la grande révolution, absolument.
Autour de la question, Dieu joue-t-il au dé? On écoute Gainsbourg, Dieu est un fumeur de Havane, sur RFI.
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Je sais qu'il fait le même la nuit, comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues.
C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux.
De toi, loin de lui, j'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane, et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux.
Dieu est un fumeur de Havane, Gainsbourg, sur RFI, autour de la question « Dieu joue-t-il au dé ?» question iconoclaste, qui est aussi le titre d'un des chapitres de votre livre, Jacques Arnaud. Vous êtes historien des sciences et théologien, et ce livre s'appelle « Sous le voile du cosmos ». Quand les scientifiques parlent de Dieu, écoutez le point de vue justement de l'astrophysicienne Françoise Combe, professeure au Collège de France, titulaire de la toute nouvelle chaire « Cosmologie et galaxies ».
C'est difficile parce que la science et la foi, c'est deux choses complètement différentes, en fait. Donc l'attitude du scientifique, c'est d'oublier qu'il croit quelque chose. Donc c'est vrai que j'ai connu des scientifiques qui avaient beaucoup de foi, mais à ce moment-là, ils séparent leur cerveau en deux, ils ont des démarches différentes. Je pense que la foi, il faut vraiment croire, et ça peut permettre à une personnalité de se développer et d'avoir une certaine structure. Et puis, dès qu'on arrive dans son laboratoire, on oublie cette foi, parce qu'il faut tester les faits. Il ne faut pas croire quelque chose à l'avance, sinon on a des préjugés et on découvre rien. Donc nous, on ne croit à rien sauf aux faits. Donc il faut avoir une démarche différente, et donc il faut vraiment avoir deux cerveaux et essayer de penser une chose et puis une autre, mais pas les deux à la fois.
Jacques Arnoux, que vous inspire cet éclairage de l'astrophysicienne Françoise Combes? Faut avoir deux cerveaux?
Oui, il faut avoir deux cerveaux. Nous avons d'ailleurs 12 de cerveaux. La question après, c'est comment nous relions l'un et l'autre de ces cerveaux, parce que sinon ça s'appelle la schizophrénie ou d'autres choses analogues qui ne sont pas nécessairement bonnes pour notre santé générale, pas seulement mentale. Et c'est vrai que c'est un peu l'objectif qui nous est décrit par Françoise Combes. C'est vrai aussi que cet objectif n'est pas toujours atteint, ou que par moment il peut y avoir des errements dans la manière dont les scientifiques travaillent.
Mais
et c'est pas du tout
et
c'est pas une critique, c'est
mais entre science et foi, on a l'impression qu'il y a quelque chose au milieu. On a l'impression que la science est quand même liée au doute.
Oui, et la foi aussi.
Et la foi aussi.
La foi n'a pas d'autre fondement que le doute. Si je suis sûr de quelqu'un, de quelque chose, de quelqu'un d'ailleurs, vous voyez, je fourche me volontairement, eh bien, il n'y a pas de foi. Voilà, je suis sûr que la foi ne peut être que la réponse à la au questionnement ou au doute. C'est là que quelquefois on a du mal à comprendre. Mais alors, vous pourrez me dire, oui, il y a des dogmes, il y a des espèces de certitudes, il y a des rites, il y a des croyances. Alors, ça, des choses affirmées, qui parfois sont lourdement affirmées. Alors, ça, c'est pas ce que j'appelle la foi. Ce que j'appelle la foi, c'est vraiment justement la réponse, l'intime, non pas conviction, mais l'intime réponse aux grandes questions, aux grandes interrogations qui peuvent me rejoindre dans la relation que je peux avoir avec une personne, ou dans la question, dans la réponse que je peux donner par rapport à l'existence d'un autre avec un A majuscule, ou du vieux avec un V majuscule, comme dit Einstein.
Donc, c'est
pour ça que pour moi, foi et doute vont ensemble, et c'est pour ça aussi que cette schizophrénie, elle ne tient pas nécessairement, parce que il y a aussi tellement de choses, et là je parle simplement très modestement par expérience, tellement de choses qui rapprochent la démarche de la personne de foi et la personne scientifique.
Parce qu'on a quand même l'impression qu'un scientifique, il doit justement laisser de côté, à la porte du laboratoire, tout ce à quoi il croit, parce que sinon il va pas. S'il s'attend à trouver quelque chose, il va pas le trouver. Enfin, s'il cherche, il faut vraiment qu'il cherche.
Mais absolument. C'est pourquoi les démarches comme celles que j'ai pu décrire à l'occasion d'un Newton, qui, pour pouvoir avoir une conception du monde qui tienne avec la loi de la gravitation qu'il vient de découvrir, va introduire un Deus ex machina, une intervention divine pour faire tenir le monde avec ses équations à lui, Newton. Donc là, c'est une sorte de réponse désespérée, parce qu'il faut quand même que ça tienne. J'ai quand même envie, dit-il, d'avancer dans la compréhension du monde. Donc je fais appel à un dieu. Mais ça, c'est vraiment désespéré comme solution. Et quand un scientifique, sans s'en rendre compte, fait appel à une intervention extérieure et divine, il y a ses confrères qui lui disent « Attends, là, tu es en train tu dépasses les bornes admises qui nous ont été rappelées par Françoise Combes, les bornes admises par la science, où il s'agit effectivement d'abord de s'attacher aux faits, de ce que je peux observer et de ce que je peux expliquer à partir uniquement de mes explications, j'allais dire physiques, au sens opposé à métaphysique, et surtout pas d'explications métaphysiques. »
Mais pourtant, c'est Einstein, on va y revenir en deuxième partie, mais c'est quand même Einstein qui a quoi, le premier osé dire, d'abord il l'a dit à ses étudiants, hein, c'est même le début de votre livre, il a dit à vos étudiants, ce qu'ils cherchent, c'est Dieu.
Mais oui,
il n'y a que ça qui m'intéresse.
Oui. Alors, une fois encore, dans le propos de mon livre, il n'y a pas vraiment aucun soupçon de jugement de qui que ce soit, ou de démontrer quoi que ce soit pour l'imposer. Il s'agit simplement de rendre témoignage, ou de me faire l'intermédiaire de ce qu'ont pu vivre au XXe siècle, au XXIe siècle, un certain nombre de savants s'interrogeant.
Entre foi et doute,
voilà,
entre,
et qui, ça, hein. Et qui ont fait comme ils pouvaient. Et Einstein, que vous venez de citer, et c'est ça, il a fait comme il a pu entre ses convictions personnelles quasiment théologiques ou philosophiques et ses travaux scientifiques.
Autour de la question iconoclaste, Dieu joue-t-il au dé? Faites vos jeux, justement, amis auditeurs. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash d'info, pour continuer de nous interroger sous le voile du cosmos. C'est le titre de votre livre, Jacques Arnoux, en compagnie des plus grands esprits libres de la physique moderne. À tout de suite. Mardi. Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Dieu joue-t-il au dé ?» Nous sommes en compagnie de l'historien des sciences et théologien Jacques Arnoux, chargé de mission pour les questions éthiques au CNES, qui vient de publier « Sous le voile du cosmos » aux éditions Albin Michel. Quand les scientifiques parlent de Dieu, on écoute l'astrophysicien Hubert Reeves.
Je dirais que la science ne peut ni prouver l'existence de Dieu, ni prouver qu'il n'existe pas. C'est deux domaines tout à fait différents. La science nous permet de découvrir des choses. Elle nous dit comment ça fonctionne, comment ça marche. Mais elle ne peut pas nous dire si cela correspond à un projet, à un Dieu, à une transcendance, quelle que soit la forme que cela prend. J'ai des amis qui sont des scientifiques très croyants, d'autres qui sont athées. Il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont bouddhistes, shintoïstes au Japon, shivaïstes. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de rapport. La question religieuse est une question très importante. Chacun y répond pour lui-même et la science en tant que science ne peut pas y répondre.
La science n'est pas là pour répondre à la question de Dieu, ce n'est pas son propos. Vous êtes d'accord avec l'astrophysicien Hubert Reeves ?
Absolument, absolument. J'ai une position qui est très proche, voire semblable à celle d'Hubert Reeves.
Mais les scientifiques ont le droit de se poser ces questions-là.
Mais les scientifiques ont non seulement le droit, mais en tout cas même, je dirais, doivent avoir l'honnêteté de se dire, on se pose quand même parfois, en tout cas certains d'entre nous se posent cette question et vont même plus loin, essayent d'y donner une réponse, mais comme l'a très bien dit Hubert Reeves, avec leur propre culture, leur propre histoire, et en leur nom propre. Il ne s'agit pas, et ce serait évidemment un grand danger d'aller dire, j'ai la preuve, je trouve la preuve dans la science, que le Dieu, mon Dieu à moi, en plus, de telle ou telle tradition, existe bel et bien, et en plus, évidemment, il faut enlever les autres dieux. Voilà, on serait
c'est
vraiment.
C'est important aujourd'hui de le rappeler, ça
c'est
aussi.
C'est quand même important de le rappeler, et que, précisément, dans les temps qui sont les nôtres, ce que moi j'ai beaucoup apprécié de découvrir à travers tous ces témoignages de scientifiques, c'est leur grande variété, d'abord cette grande variété de positions face à la même question, Dieu joue-t-il au dé ou Dieu existe-t-il, comme dit Hubert Reeves, grande variété de réponses et en même temps un grand respect mutuel de la réponse des autres.
L'exemple le plus marquant, hein, ce respect mutuel, j'ai envie de dire, c'est dans la controverse qui oppose Einstein à Bohr, hein, autour de la question Dieu joue-t-il au dé. Alors Einstein dit non, Dieu ne joue pas au dé. Enfin, tous les deux, Bohr et Einstein ne sont pas d'accord, et pourtant ils vont, au fond, cette controverse même fait peut-être partie de leur amitié.
C'est fort possible. Je suis pas assez psychologue pour pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants d'une relation aussi amicale que celle qui liait ces deux très grands savants qui, dès qu'ils se sont rencontrés, ont vraiment créer une vraie amitié, une solide amitié, alors que chaque fois qu'ils se rencontraient, ils débattaient à la fois sur la science et sur même sur la philosophie, parce que comme vous venez de le rappeler, Einstein défendait vraiment Dieu ne joue pas au dé, c'est-à-dire une vision déterministe, mais alors au point le plus extrême de la réalité, aucun aspect probabiliste pour Einstein, alors que Bohr défendait parfaitement l'opposé, et que derrière ces deux positions scientifiques, il y avait aussi une position quasiment philosophique ou métaphysique. Mais ça n'empêchait pas qu'ils s'écoutent l'un et l'autre, qu'ils passent de bons moments ensemble. Et ce n'est pas le seul cas, d'ailleurs, parmi ces scientifiques.
C'est qu'on peut ne pas être d'accord du tout, voilà. Et on peut se parler, et c'est même ça qui est intéressant.
Mais au contraire, c'est la dispute. Enfin, retrouvons, comme on le dit en permanence, retrouvons le sens de la dispute, surtout dans le milieu universitaire, précisément. Cette vieille dispute médiévale dont Paris est l'un des berceaux, où on prend le temps de donner son argument, d'écouter l'argument de l'autre, de confronter ses arguments, de revenir autant de fois qu'il faut. Et dans le cas de Bohr et d'Einstein, chaque conférence, entre autres à Bruxelles, où ils se retrouvaient année après année, était l'occasion de nouvelles joutes. Et la joute ne s'est terminée qu'avec la mort de l'un et l'autre, même si leur question continue à être travaillée aujourd'hui.
Et leurs questions, si elles sont aussi travaillées aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont posé les bases d'une nouvelle physique qui fonctionne toujours, mais qui est presque remise en question aujourd'hui. La relativité générale, ça fonctionne, mais tout ça a soulevé des nouvelles questions physiques, astrophysiques et métaphysiques.
Mais voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce 20e siècle, en tout cas, qu'a inauguré Einstein dans cette problématique en disant, il lui-même a dit, un jour, il est allé faire une communication à l'Académie de Prusse, et il a dit, je vais faire un véritable sacrilège avec cette communication, parce que je vais réintroduire le tout dont nous parlions tout à l'heure, l'étude du tout comme étant un objet de science, alors qu'on l'avait mis de côté. et à travers sa vision de physicien. Et faisant cela, il savait bien que c'était un sacrilège par rapport à la pratique scientifique antérieure. Et ce faisant, eh bien, il le sait peut-être pas encore, mais ou en tout cas, il pressent que on va faire de nouveau rentrer quelque chose qui jusque-là avait été cantonné, si je puis dire, en métaphysique, n'était plus l'ordre de la physique, et ce tout va servir de frontière entre physique et métaphysique. Et lui-même explique que c'est ça qui l'intéresse, au fond. Alors, c'est là que on peut constater, pas plus que constater, qu'Einstein, dans les théories qu'il va petit à petit élaborer, dans les domaines de recherche qui sont les siens, eh bien, a un
prisme.
Il a un prisme. Il a un intérêt pour la métaphysique qui dépasse peut-être les limites que donnait Françoise Combes tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est ces deux cerveaux qui fonctionnent et il est influencé dans ses théories par une certaine conception du monde qui n'est pas strictement scientifique.
C'était un homme, Einstein, avant d'être un génie, c'est évident.
Voilà, exactement.
Et aussi, quand on se penche sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'on étudie le cosmos, parler d'astrophysiciens, ou même ceux qui étudient les plus infimes des particules, les physiciens des particules, on flirte quand même tout de suite avec la philosophie, avec ces questions-là, complètement existentielles, d'où venons-nous, quelle est l'origine de l'univers, enfin...
Mais c'est ce qui me semble, en tout cas, au regard de ces témoignages tout à fait directs, d'hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes, malheureusement, je suis vraiment désolé. Il y en a quelques-unes, mais elles n'ont pas, jusqu'à présent, pas beaucoup écrit, en tout. Des témoignages comme Françoise Combes, il y en a quelques-uns qui commencent à apparaître. Mais je crois d'abord que ce sont des hommes honnêtes. Il y a une grande honnêteté dans ces démarches-là.
Il dit, je pense ça, je crois ça, je cherche ça.
Et comme ils sont honnêtes, ils sont aussi honnêtes par rapport à ce que pensent les autres. Et il y a vraiment une écoute mutuelle qui peut aller une fois encore jusqu'à l'amitié. Un Fred Hoyle qui pense que l'univers a toujours existé, un côté un peu statique, et il va défendre sa théorie statique pendant très longtemps, c'est celle qui va prévaloir jusque dans les années 50 voire 60, va s'opposer donc catégoriquement à un Georges Lemaître, chanoine de l'Église catholique, qui lui est l'un des pères de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du Big Bang. C'est Hoyle qui, pour se moquer de Lemaître, dit l'homme du Big Bang en désignant Lemaître, mais c'est pour s'en moquer, pour se défaire de cette idée-là. Donc quand on lit ça, on dit bon, voilà, c'est deux opposants, ça a du castagner, si vous me permettez l'expression. En fait, c'était des amis aussi. C'est parce que l'écoute, justement, le respect va au-delà de la différence. Et au contraire, même comme vous disiez, presque s'enrichit dans cette différence, dans ces échanges. On a combien de photos, pour revenir à Einstein-Bohr, où ils sont l'un d'un côté de l'autre, un peu perdus dans leurs pensées, l'un fumant, l'autre rêveur, et on sait qu'ils sont en train d'échanger à la fois sans doute des équations mathématiques et en même temps des pensées philosophiques. Et je trouve que c'est un témoignage d'humanité absolument extraordinaire.
Autour de la question « Dieu joue-t-il au dé ?», je vous propose, Jacques Arnoux, un nouvel éclairage, celui d'un physicien, Gabriel Chardin, qui était récemment notre invité.
Ça dépend évidemment de ce qu'on appelle Dieu. Si on appelle Dieu un être masculin avec une grande barbe, ça me touche pas du tout, que ce soit Mahomet ou Jésus. Ça, c'est pour moi, c'est assez absurde, c'est une limitation de l'esprit humain. Si on s'intéresse à Dieu comme une sorte de principe de conscience beaucoup plus général et qui probablement nous dépasse assez largement, un peu ce que Teilhard de Chardin, qui n'est pas du tout de ma famille, se posait comme question, avec le point oméga ou des systèmes de conscience inconnaissables quelque part, très ultimes. Ça, c'est très intéressant. C'est une question que je me pose régulièrement, et notamment dans la question posée par les univers infinis de multiplicité des histoires, d'histoires essayées un peu comme ça, avec des histoires, certaines positives, d'autres chaotiques, d'autres très douloureuses, etc. Pourquoi y a-t-il un sens ? Y a-t-il un élément de sélection ? Y a-t-il quelque chose qui fait qu'il y a un principe de direction ? Ça, c'est vraiment une question pour moi très intéressante.
La question d'un principe supérieur, pour ne pas dire Dieu, renouvelé par les univers multiples. Pouvez-vous nous expliquer ça, Jacques Arnoux ?
Là, c'est un monde complètement fascinant et dans lequel donc je n'avancerai que très prudemment, parce que les théoriciens eux-mêmes y avancent très prudemment. C'est pour différentes raisons que l'on pourrait imaginer que notre univers, dans celui dans lequel nous vivons actuellement, dont nous ne savons pas trop s'il est illimité ou s'il est infini, en tout cas on n'en connaît que quelques pourcents d'ailleurs, c'est ce que disent quelques pourcents de l'énergie, quelques pourcents de la matière, en tout cas notre univers pourrait avoir été précédé par d'autres univers qui seraient nés et qui seraient morts, qui aurait donné sens au nôtre, pour être suivi par d'autres univers, ou même au moment où je vous parle, on pourrait avoir d'autres univers totalement séparés d'une autre.
Des bulles d'univers.
Alors, on essaie de représenter ça comme ça, avec des bulles, bon, etc.
Difficile à comprendre, on se dit que ça pourrait certains, éloigner ben complètement. Voilà.
Mais alors, certains disent même, mais ce seraient des univers dans lesquels il y aurait, au moment où nous parlons, l'équivalent d'un studio de RFI.
Et, avec Jacques Arnaud et Caroline Echauffier voilà, qui se parlent. Mais, qui nous
mais peut-être avec d'autres histoires. C'est ce que disait précisément Gabriel Chardin. Il dit, mais avec des histoires peut-être plus malheureuses, notre entretien se passerait mal, ou je ne sais pas, enfin, on parlerait d'autres choses. Je serais en train de vous parler, au contraire, le diable et les savants, je ne sais pas. Enfin, et donc, ça pose la question de la relativité, non pas au sens d'Einstein, mais voilà, est-ce qu'on est unique? Ou est-ce que nous sommes que un élément parmi d'autres répétés
et une ça possibilité,
voilà une possibilité
hypothèse.
Alors derrière ça est-ce qu'il y a un sens, la question qui est aussi posée par ce scientifique qui nous repose aussi la question du sens de notre propre univers. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui en train de disputer ou de débattre ou d'échanger sur cet ouvrage et ça c'est vrai que l'approche théorique purement théorique de cette multiplicité comme elle était théorique lorsque Nietzsche parlait de l'éternel retour. Parce que là aussi, les multivers...
Nietzsche, pas scientifique, mais philosophe.
Mais oui, parce que en fait, ils n'ont rien inventé. Enfin, je suis pas en train de dénigrer. Mais les scientifiques constatent aussi, et c'est pour ça qu'il y a la métaphysique aussi, que un certain nombre de leurs travaux ont déjà été imaginés, non pas sous des formes mathématiques ou scientifiques, par d'autres penseurs auparavant.
Par des penseurs, quand par des artistes, espèce d'intuition.
Mais oui, quand Nietzsche parle de l'éternel retour, en fait, il pense qu'il y a des univers qui se suivent. Et d'un point de vue, non pas scientifique, mais philosophique, c'est exactement la question du multivers.
Mais est-ce que cette question-là, elle éloigne pas, justement, de cette idée d'un dieu ou d'un dieu tel qu'on l'imagine? C'est-à-dire qu'on se dit, s'il y a des multiples univers, s'il y a des multiples possibilités, si je ne suis qu'un infime élément de cet espace infini?
Oui, mais on peut dire aussi, au lieu de dire, on sait pas, on se dit, mais, alors, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas un niveau au-dessus qui donnerait sens à cette multiplicité? Quand vous êtes face à quelque chose qui est très divers, extraordinaire, vous dites, mais est-ce qu'il y a, où se trouve l'unité? Et on le voit. Je parle de Laplace, ce célèbre Laplace, qui dit à Napoléon, sire, je n'ai pas besoin de l'hypothèse de Dieu pour installer mon système du monde. Mais de fait, derrière son système du monde, il y a quand même un esprit qui est capable de contrôler tout ce système.
Alors, quelque chose de supérieur, quelque chose qu'on ne comprend pas d'ailleurs.
Bah oui, ne serait-ce que pour penser ce système comme étant un, il faut presque quasiment s'imaginer soi-même ou quelqu'un d'autre qui puisse dominer ce système. Quand en plus, par ailleurs, on découvre, moi je ne le savais pas, mais que Laplace était franc-maçon et qu'avant de présenter ses résultats à l'Académie des sciences, il allait dans sa loge pour soumettre son approche scientifique, mais en même temps sa conception du monde à ses frères maçons, je ne suis pas en train de dire qu'il n'était pas schizophrène, je veux dire simplement qu'il est humain. Et que on est, vous voyez, ces deux cerveaux dont parlait François Combes, il faut les séparer, mais en même temps, ils sont peut-être aussi en résonance l'un ou en relation l'un avec l'autre. Ce qu'il faut, comme toujours, c'est garder raison, c'est garder une approche scientifique, être capable aussi de soumettre ces théories à ses collègues qui vont vous dire « Attendez, mon cher ami, là, vous êtes trop influencé par une certaine idéologie, une certaine conception du monde qui fait que vous tordez trop vos équations. »
En fait, il faut être prêt à se remettre en question tout le temps et à tout remettre en question tout le temps.
Mais c'est ce qu'Einstein dit. Einstein, qui voulait absolument que le monde soit statique, avait réintroduit des paramètres pour tordre ses équations. Et il a dit, c'est ma plus grosse bêtise que j'ai fait dans ma vie. Mais c'est ses confrères qui lui ont dit, mais attendez, mon cher Albert, ou je sais pas comment monsieur le professeur, là, vous avez rajouté quelque chose qui est inutile. Mais pour quelle raison? C'est parce que Einstein, comme il le disait assez tôt d'ailleurs, un de ses étudiants, ce qui l'intéressait, c'est de connaître la pensée de Dieu. Bon. Jusqu'où ça l'a influencé? Peut-être plus loin qu'il ne fallait. Ça n'a pas empêché Einstein d'apporter à la science des éléments extrêmement importants pour que cette science avance, simplement que la science, justement, elle ne fait toujours qu'avancer. Et qu'en permanence, elle est remise en cause.
Donc en fait, il faut aussi, enfin, Einstein, il pouvait vouloir connaître la pensée de Dieu, mais il ne voulait pas l'imposer à qui que ce soit.
Non. On parlait de Bohr ou des autres. Il a toute sa vie cherché, il a constaté aussi ses échecs, il a constaté l'avancée de ses collègues, et ce débat. Et quand on a la chance, comme moi, de fréquenter régulièrement le milieu scientifique, on voit que ces débats ne cessent de continuer et que La chose la plus grave, c'est un mot qu'on a cité auparavant, je crois, la chose la plus grave, c'est le dogmatisme, c'est-à-dire de dire, voilà la pensée qu'il faut croire, à laquelle il faut tenir, et il n'est plus question d'en bouger. Ça veut dire, c'est la fin de la science, lorsque dogmatique est scientifique, la fin de la religion, lorsque le dogmatisme est religieux, la fin de la création artistique, si vous avez un dogmatisme artistique.
Bon, c'est ça que vous voulez montrer, c'est que...
Depuis longtemps, oui, et finalement, sans que ça soit vraiment l'objectif de cet ouvrage, ça le montre aussi. Et
attention au dogmatisme,
oui,
attention
sûr,
à dire moi j'ai raison et vous avez tort.
Voilà. Et même pour soi. C'est-à-dire que le dogmatisme, comme disait un théologien allemand, c'est l'image qu'il utilisait, c'était l'ivrogne qui accrochait à son lampadaire. Donc, alors vous pouvez multiplier les images de la l'ivrogne, bon, mais c'est ça. Je suis sur mon lampadaire, j'ai la vérité, je m'y tiens et c'est terminé. Mais on est balayé par la première difficulté.
Autour de la question Dieu joue-t-il au dé, on écoute Tracy Chapman sur RFI pour élever un peu nos esprits de Promise.
If you wait for me, then I'll come for you. Although I have traveled far, I always hold a place for you in my heart. In a while, then I'll return to you. I'll return and fill that space in your heart. Remembering your touch, your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you. If you'll be waiting, and say you'll hold a place.
Cœur de Tracy Chapman sur RFI autour de la question Dieu joue-t-il au dé, question iconoclaste, qui donne son titre à l'un de vos chapitres, Jacques Arnoux, sous le voile du cosmos. Quand les scientifiques parlent de Dieu, je vous propose un dernier éclairage un peu distancié, en forme de question, soulevé par le mathématicien Frédéric Patras.
Est-ce que ça n'est pas quelque chose qui est au fond constitutif de la science, que d'imposer une certaine distance par rapport à la théologie? Est-ce que la science, spontanément, dans la mesure où elle privilégie systématiquement des approches théoriques, n'écarte pas de la religion traditionnelle pour privilégier, pour les gens qui s'intéressent à la théologie, des approches beaucoup plus abstraites?
Votre réponse, Jacques Arnoux, mathématicien Frédéric Patras.
Et inversement, j'avais envie de lui dire.
Ah.
C'est-à-dire que je crois effectivement l'intérêt, c'est ça que on voit souvent science et religion qui s'opposent. Et donc, ce mathématicien dit, mais non, la science vient poser un écart et invite à une certaine distance, invite la théologie à prendre une certaine distance, et je crois aussi que la théologie peut inviter la science à prendre une certaine distance. C'est vraiment c'est là que les deux peuvent vraiment, vous voyez, concorder sans pour autant se confondre. C'est ça qui est important. Je crois que dans la rencontre avec l'autre, c'est quel qu'il soit, faisant que ça soit des champs de l'intellectuel humain.
Quand vous dites l'autre, pour vous, c'est l'autre, donc avec un grand A, hein, Dieu,
oui,
vous
mais c'est l'autre,
ou l'autre, c'est l'autre.
Mais oui, parce que regardez, dans la très belle chanson que nous venons d'entendre, c'est les yeux de l'autre. Mmh. On sait très bien, dans la rencontre, il y a toujours un dialogue avec les yeux. De quelle couleur est le ciel, demande-t-on, c'est la couleur de vos yeux. Donc c'est toujours dans cette altérité. Dans cette différence qui peut un jour devenir aussi une relation, instaurer une relation, que tout se passe pour moi, non seulement au niveau humain, au niveau des relations humaines, bien sûr, comme je viens de le dire, mais aussi au niveau de la recherche intellectuelle au sens ou spirituelle. Je ne sais pas si la science fait partie de l'intellectuel ou du spirituel, mais des deux à la fois. Et je suis persuadé que, justement, nos braves scientifiques, en se posant la question de Dieu, en donnant autant de réponses, qui sont donc théologiques, puisque ça parle de Dieu au sens large du terme, eh bien, mettent non pas la science en défaut, mais mettre la science en relief et même peut-être lui donne une certaine noblesse, de même que...
Et la rapproche de nos questions absolument humaines et existentielles.
Et en même temps, ce mathématicien a parfaitement raison, il faut que les théologiens, dans leur travail de doute, dont nous parlions tout à l'heure, de recherche, non pas de répétition, mais vraiment de recherche, doivent...
S'inspirent mais doivent de aussi, la science.
Mais oui, ils doivent sinon s'inspirer parce que c'est souvent bien trop compliqué, en tout cas se sentir bousculé parce que la science approche. Et ça, c'est ça qui est intéressant dans ce témoignage de ces scientifiques. Qui au fond, vont voir les théologiens ou du moins interroger les théologiens en leur disant mais attendez vos dogmes un petit peu rabâchés là et recuits ça tient pas la route parce que ils reposent sur une conception de la réalité qui est trop ancienne et ce que dit aussi alors c'était lui ou le précédent je ne sais plus maintenant le dieu moustaché ou barbu
oui,
ou le dieu ou
le
dieu oui ou comme le dieu fumeur de Havane ce sont des images qui sont sympathiques
mais
qu'on peut utiliser mais qui ne marchent plus ou qui ne marchent pas par rapport à ce que nous dit la science de la réalité dans laquelle nous sommes et à laquelle nous appartenons.
Et la science elle nous dit quoi? Elle nous dit autre chose. Il y a pas mal de réactions sur les réseaux sociaux avec cette phrase, je crois que c'est un adage attribué à Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup y ramène
En tout cas ramène à la question de Dieu.
Voilà, ramène à la question.
Moi, je ne dis pas que ça ramène
Dieu.
Non, parce que ça ramène à la question après, libre à chacun d'y répondre. Et une fois encore, un Hoyle dira « je n'y crois pas », un Friedman dira « je n'y crois pas », mais comme on l'a entendu aujourd'hui, j'ai des collègues qui y croient, et je les respecte. Mais vous voyez, c'est toujours ce respect. Et ça, je crois que la science, effectivement, quand elle est bien menée, nous amène à un très grand respect parce que on sait que nous ne sommes que des petits esprits limités dans un immense univers qui essayons de comprendre ce qui se passe sur notre petit grain de poussière. Ça n'empêche qu'on peut pour autant se perdre dans les yeux de quelqu'un ou se perdre dans la question de la transcendance.
Et vous, je sais pas si vous vous perdez, Jacques Arnoux, mais en tout cas, vous avez choisi à la fois la définition d'Einstein et celle de Dyson pour évoquer cette image, on va pas dire Dieu, mais de peut-être d'une puissance supérieure. C'est quoi vos deux images préférées?
Donc,
celle d'Einstein.
Einstein, c'est le vieux. Il parle toujours du vieux. Hein, et alors donc, mais parce que Einstein se sent vraiment très proche du judaïsme, de la communauté juive, même si un jour invité dans une synagogue, il va dire je ne préfère pas m'y rendre parce qu'il y a tellement longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une synagogue que j'ai peur que Dieu ne me reconnaisse pas, mais j'ai peur aussi s'il me reconnaissait. Donc il parlait du vieux avec une grande affection que je trouve touchante et bien fondée. Et puis Dyson qui d'un autre côté parle un jour de Dieu dit voilà j'ai fait un songe, j'étais dans un hôtel avec mes enfants et je suis convoqué par Dieu. Alors je prends un taxi, je vais à l'adresse indiquée, je rentre dans un grand bâtiment un peu administratif, ça ressemble vaguement à un temple, je ne sais pas, je rentre dans une grande salle, il y a un trône et puis il y a personne. J'ai dit, c'est quand même bizarre, Dieu qui donne rendez-vous, qui n'est pas là. Alors, mais nous avançons un peu avec mes enfants, nous arrivons sur le trône, et là, il y a un nourrisson. Et je prends Dieu, parce que c'était Dieu, dans mes bras. Pourquoi pas? C'est sa manière à lui, et derrière, on voit bien qu'il y a aussi toute une manière de concevoir le monde. Si le monde, effectivement, est l'œuvre d'un Dieu qui est un nourrisson, il y a toute notre théologie à revoir. Oui
et puis,
et non.
Gère, moi aussi,
voilà,
on peut peut-être en faire quelque chose et quelque chose d'autre.
Qu'est-ce que devient faire la toute-puissance de Dieu dans tout ça? Ben, évidemment, elle est mise à mal. Et dans le même temps, on peut aussi rajouter, puisque notre dernier témoin parlait de Teilhard de Chardin, ce que Teilhard avec sa théologie chrétienne fondée, a aussi dit, mais ouvrons-nous, je dirais, nos écoutilles. Il ne faut pas que le Dieu que l'on propose soit trop petit. L'univers aujourd'hui a des dimensions telles que notre Dieu doit être absolument cosmique. Donc, ça remet, non pas en cause, mais ça vient
donc
bousculer.
Un Dieu nourrisson, cosmique, voilà. Alors, tout est ouvert.
Mais
hein.
Oui, mais tout est ouvert, mais précisément,
tant mieux.
C'est ça, il ne faut pas dire, il y a une seule solution. je dirais, si j'ai une seule conviction, c'est que Dieu est de toute façon nécessairement autre. Les grands spirituels, les grands mystiques, de quelque religion qu'ils soient, disaient toujours « je demande à Dieu de me débarrasser de Dieu ». C'est-à-dire, le Dieu qu'ils cherchent ne sera présent que s'ils se débarrassent du Dieu qui est leur petit Dieu à eux, qu'ils ne cessent de créer. Et nous créons tous nos petits dieux.
C'est bien de le rappeler. Merci infiniment, Jacques Arnoux, d'être venu en direct. Merci. Nous faire partager toutes ces interrogations et ces interrogations des plus grands hommes, des plus grands physiciens de notre temps. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Sous le voile du cosmos, quand les scientifiques parlent de Dieu ». Et ça vient de paraître aux éditions Albin Michel. Merci à vous.
Merci.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Demain, autour de la question « Que savons-nous de Néandertal ?» Voyage à remonter le temps et les préjugés, encore une fois, sur les traces d'une autre forme d'humanité, aujourd'hui disparue. Et nous nous demanderons d'ailleurs pourquoi et comment ils ont disparu, les hommes et les femmes de Néandertal. Avec Charles Pellabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs et internautes, surtout, portez-vous bien, restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Nous lisons vos messages, même si nous ne les diffusons pas tous sur l'antenne. Dans quelques instants, dans une petite minute, un nouveau journal sur la Radio Mondiale.